Arras. Arras.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PFM 99.9. Nous sommes en direct du cabaret des Colères pour la 5e édition à l'hôtel de Guine et ce sera évidemment en différé sur le 99.9. Émission aujourd'hui autour d'un cabaret d'histoire, autour des Trouvères d'Arras, nouvellement traduit par le poète Jacques d'Arras, accompagné à la scène par Jacques Bonafé, le comédien. Et c'est en collaboration avec la Maison de la Poésie de Beuvry et le Conservatoire d'Arras. Et autour de cette table, pour parler de cette soirée, eh bien on accueille donc Jacques d'Arras et Jacques Bonafé. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonjour pour les auditeurs qui nous écouteront le matin. Alors, pour vous présenter un peu, Jacques d'Arras, vous êtes poète, essayiste et traducteur français né en Picardie-Maritime, si je ne me trompe pas, dans les régions du Marcantère et du Ponthieu. Et Jacques Bonafé, vous êtes comédien, metteur en scène, originaire de Douai également.
Oui.
Et vous êtes aussi chroniqueur poétique du lundi au jeudi de 15h55. À 16h ouais. Sur France Culture, notamment pour parler de ce livre.
Alors, ce qui fait de notre réunion à tous deux la réunion d'un ch'ti et d'un picard.
Alors, qu'est-ce que ça donne la réunion d'un ch'ti et d'un
c'est
picard ?
C'est intéressant aujourd'hui.
C'est une fusion, c'est-à-dire c'est la région nouvelle, telle qu'on nous l'a présentée, on nous l'a apportée là comme ça sur un plat. Et on nous a dit, vous n'avez pas le choix. C'est ça ou c'est rien d'autre. Et alors, donc, nous, on avait déjà fait cette fusion-là, quoi, 10 ans avant, même 15 ans, quasiment.
Bon, voilà, quoi. Ben voilà.
Alors, on n'a pas besoin d'institution, nous.
Mais on est tout dit curieux d'en tirer des enseignements. Donc, justement, ce livre.
Alors, le livre du cloître à la place publique, les poètes médiévaux du nord de la France, du 12e au 13e siècle, qui a été retraduit, on va dire, on va en parler par Jacques d'Arras. D'ailleurs, on peut peut-être en parler de ce bouquin. J'ai pas envie de vous poser la question comment vous est venue l'idée, je pense qu'elle est logique.
Ah, c'est une très vieille idée en ce qui me concerne. Ça date dans le fond des années 1985, donc ça fait 30 ans, et ça a cheminé. C'est tout le temps que ça, il a fallu, en vérité, pour que ça chemine, parce que d'abord, il faut rejoindre le Moyen-Âge, et que ce n'est pas fréquent en France, et même pas dans le Nord, en vérité. C'est ça qui est absolument curieux. Et donc, j'ai cheminé pendant 30 ans, en compagnie de ces auteurs, et puis m'est venue l'envie de les rassembler, parce que comme je cherchais autour de moi des livres où je pouvais trouver les textes, je trouvais rien.
Et ça n'avait jamais été fait.
Ça n'avait jamais été fait, vraiment.
Voilà, ça manquait. C'est ce que Jacques d'Arras m'a appris, c'est qu'il y a eu une mode des troubadours, qui sont plutôt ceux de la langue doc, et que les trouvères étaient, dans le travail de publication, dans le travail de traduction, un peu oubliés.
Il y avait eu ici, sur place, alors bon, je règle tout de suite un compte, je m'appelle Jacques d'Arras, donc c'est une forme de logique, quoi. Je reviens chez moi d'une certaine manière, je rentre chez moi avec ces trouvères et ces jongleurs. Et donc il y avait par exemple une personne locale, je ne sais pas si elle l'est connue, qui s'appelle, je ne sais pas s'il a disparu ou bien s'il est toujours vivant, ce que je souhaite en vérité, s'appelle Roger Berger. Et Roger Berger avait fait un travail extraordinaire, d'une précision vraiment formidable sur le XIIIe siècle, sur ce qu'était Arras au XIIIe siècle. Et moi, j'étais époustouflé, quoi. Je me disais, mince, ce monsieur, d'abord, il sait énormément de choses, et puis il va certainement un jour nous écrire une histoire d'Arras au XIIIe siècle, montrer comment cette ville était alors une des plus grandes villes européennes, quoi. Il faut pas du tout sous-estimer. C'était une très, très grande ville. pleine d'activité, en particulier de tissage essentiellement, mais également d'activité de banquier. Il y avait la banque qui était là, et pas n'importe quoi. Et puis,
Et puis, ils couraient les rues, oui, c'est surtout ça que je vois. Moi, ils étaient sur la place publique. Hein. Non,
par l'époque, par l'époque.
Ils travaillaient bien, hein, il n'y avait rien à dire, mais quand même...
Et rue de la Taillerie, j'imagine que pour les Arrageois, ça dit quelque chose, la rue Taillerie, ça porte bien son nom.
Ils taillaient des bavettes.
À cette époque-là, non, ils taillaient des bavettes, c'est vrai, mais ils taillaient surtout de l'étoffe. C'est là qu'on vendait les draps.
Avec les subettes.
Et donc, on imagine... Moi, je me suis, quand je viens à Arras, sur les deux places... Je suis transporté vers cette époque-là et je me dis, elles n'ont pas bougé. Les deux places n'ont pas bougé depuis au moins le XIIIe siècle.
Mais alors, du coup, on parlait de bavette, etc. Est-ce que l'andouillette était déjà d'actualité à cette époque ?
L'andouille d'Arras.
L'andouille.
L'andouillette d'Arras. Alors ça, c'est mon ami Jacques Bonafé qui m'a
chanson,
me dire...
La chanson, t'as pas voulu venir, l'andouille, elle est restée perdue. Mais
ça, genre,
si tu reviendras, tu n'auras pas.
Non, c'était pas là. Non, c'est vraiment rien.
Il faut citer, tout à l'heure, on a commis une injustice parmi les traducteurs, une personne qui m'est chère, qui est Sylvie Neve, qui avait travaillé sur les traductions des congés.
Sur un congé, oui, hein, absolument.
Qu'on connaît bien sur PFM, puisqu'elle fait des chroniques également chez nous.
Eh ben, parfait, vous la saluez.
Il y a eu des traducteurs, il faut quand même... le dire, mais ce qu'a produit Jacques d'Arras, là, c'est une réunion, et c'est la première fois que ça se fait, de tous ces poètes-là qui écrivaient, ces poètes, ces jongleurs, on les appelait jongleurs parce que trouvère, ça veut dire une expression orale face à un public, sur la place publique. Et c'est la première fois qu'un traducteur, un poète comme ça, réunit tous ces poètes du 12e et 13e siècle.
Mais aussi parce qu'ils jonglaient. Parce que d'une certaine façon, il devait, on n'en sait pas grand-chose, mais il devait faire des cabrioles, il devait faire des gestes, des mimiques. Et puis, il savait par cœur plusieurs poèmes dans plusieurs genres et de plusieurs trouvères. Et c'était ça. Alors, il y avait des trouvères qui étaient jongleurs, puis des jongleurs qui étaient simplement jongleurs. C'était surtout une association. C'est la première société littéraire au monde, qu'on n'ait jamais vu. C'est ici qu'elle a pris forme. Elle s'appelait la Carité Notre-Dame des jongleurs et les jongleurs et des bourgeois. Et il disait comme devise, au-dessus, il n'y a rien. Je trouve ça déjà extraordinaire, quoi. Il disait au-dessus de la poésie et au-dessus des jongleurs et des bourgeois qui nous financent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était la bourgeoisie marchande, commerçante, qui finançait ces gens-là. Au-dessus de ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y a même pas le comte d'Artois, il n'y a pas le roi, il n'y a pas l'église, il n'y a pas l'évêque, il n'y a pas le monastère. C'était d'une liberté ahurissante, quoi. C'était vraiment des gens qui s'étaient groupés, qui s'étaient mis ensemble pour affirmer leur indépendance de tous les pouvoirs.
D'une certaine manière, c'est un temps de colère, ou en tout cas un temps de liberté incroyable.
Ah oui.
Peut-être pour ça que le livre s'appelle « Du cloître à la place publique », c'est-à-dire que le temps qui précédait était peut-être marqué par l'austérité, le fait que les moines avaient ce pouvoir de la culture, ce pouvoir de l'écriture, et que tout d'un coup, c'est d'autres personnes qui s'en emparent et qui en font une monnaie d'échange, une sorte de ferment, de la société.
Le XIIe siècle, c'est les monastères cisterciens et autre chose. Le XIIIe siècle, c'est d'un seul coup l'émergence des villes. Et au premier rang de ces villes, la plus prospère de toutes ces villes, à hauteur des villes italiennes comme Gênes, Florence et autres, c'est Arras.
Alors, j'ai deux questions, donc du coup, à vous poser. La différence entre un trouvère et un troubadour... Et la différence aussi entre la langue d'oc et la langue d'oïle.
Alors, un trouvère et un troubadour, j'ose dire d'une certaine façon que c'était la même chose. C'est-à-dire
je proteste.
Pour ça que je pose la question.
Sauf que les troubadours avaient, chanté essentiellement dans les cours. Dans les cours des petits seigneurs, il y avait de la féodalité extrêmement multiple et plurielle dans le sud. Et donc, ce qui était très intéressant déjà, c'est qu'il y avait parmi les troubadours des seigneurs, des guerriers, exemple Guillaume IX d'Aquitaine, qui est le premier des grands troubadours, mais aussi des gens qui étaient d'origine plus que modestes, des fils de boulangers, par exemple Bernard de Ventadour, qui est un des plus grands troubadours. Les trouvères dans le Nord, ils sont essentiellement ils sont plutôt de la bourgeoisie, comme dans les villes. Et alors, ils sont beaucoup moins conventionnels que les gens de la Languedoc, qui finalement mettent en forme la notion d'amour. Quoi. Jacques Roubaud, qui est un poète que nous connaissons tous, dit, mais on ne peut pas le contredire, finalement, l'invention de l'amour, l'amour courtois, mais l'amour tout court, d'une certaine façon, c'est-à-dire la déclaration d'un homme à une femme.
Sans massue et sans...
On enlève le côté préhistorique. Voilà.
Oui. Se codifie dans le sud.
Voilà.
Dans le nord, ils sont bien plus remuants. Alors, ils vont hériter de cette codification du sud, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont la casser. Ils vont tout casser d'une certaine façon.
Donc Jacques Darras est en train de éventuellement concéder que les troubadours ont précédé les trouvères.
Oui, bien sûr. Je ne peux pas.
Il ne le dit pas tous les jours.
Je ne le dis pas tous les jours, mais quand on me pose la question, j'ai l'honnêteté de répondre.
Oui.
Une réponse quand même qui va de soi.
Mais ceux qui ont vraiment compris qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi. Les gars qui ont vraiment mis le doigt dessus, chez les trouvères. Les autres, ils barbouillaient avant, quoi.
Alors, ce sont des gens qui
les trouvères, c'est juste qu'ils trouvent.
Troubadour, c'est la même chose. Il y a des grandes discussions, mais on ne va pas entrer dans ça. C'est une technique.
Trouveurs de trouvères.
Entre eux, c'est des gens qui font des tropes. Les tropes, c'est des figures. Alors, il y en a qui disent, c'est les figures. D'autres qui disent, non, c'est le fait de trouver. Peu importe. C'est sur le même plan. C'est sur le même plan pour la fonction. C'est sur des plans différents pour l'origine sociale.
D'accord. Le ch'ti, on y revient. Est-ce que le ch'ti déjà avait son empreinte au XIIIe siècle ?
Alors, là, je réponds de façon...
En protestant ?
Comment dire ? Oui, je
proteste. C'est pas le ch'ti, c'est le picard. Il y a le ch'ti, il n'existait pas.
Le ch'ti, c'est le picard. Disons-le, je ne vais pas dire une fois pour toutes, parce qu'il faudra répéter ça indéfiniment, puis ça ne plaît pas à tout le monde. Le ch'ti, c'est... Comment dire ? Ça remonte à la guerre 14-18. Il y a une différence, on est bien d'accord, entre le XIIIe siècle et le XXe siècle. Il y a 7 siècles de différence. C'est une, comment dire, c'est une appellation dérisoire des autres Français, des Bretons, désignant les soldats du Nord, les poilus en quelque sorte d'origine du Nord, ouais. Et qui parlaient entre eux et en employant par exemple Ch'tilo. Ben Ch'tilo, celui-là. Ah, et donc, ça, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est ?
C'est Ch'tilo, là.
Et donc, ils les ont baptisés comme ça, de façon un peu dérisoire. Mais ensuite, bien entendu, les gens du Nord ont retourné ça à leur avantage. Mais disons les choses carrément, s'il n'y avait pas eu le film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, il n'y aurait, à mon avis, pas eu cet engouement.
Oh, vous les connaissez mal. Oh là là là.
Alors, le Picard, par contre, avait son empreinte.
Alors, les grammairiens sérieux disent finalement, appelons ça le franco-picard. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mots dans ces poèmes, dans ces pièces de théâtre, qui sont vraiment typiquement picards, qui sont passés encore aujourd'hui d'une certaine façon, mais la syntaxe, c'est-à-dire la façon de construire les phrases, tout ça, c'est comme le français. Ça a donné le français avec le normand, l'anglo-normand et le champenois. Et donc, à Paris, ils ont fait de la tambouille, ils ont tout rassemblé, puis ils ont choisi, puis ils ont sélectionné, puis ils ont commencé à parler sur le bout de la langue, comme ça. Alors que nous, en Picardie, on a tendance à parler avec... se servant de l'arrière du palais, quoi, d'une certaine façon. Et de façon un peu véhément.
En sacant dedans.
Ah oui.
Alors, avant de parler de comment vous avez traduit et comment se fait une traduction de textes qui sont quand même dans l'ancien français et qui sont assez compliqués, et du travail de Jacques Bonafé aussi également sur scène, je vous propose une petite pause musicale avec quelqu'un qui est bien connu sur Arras, c'est Adam de la Halle. Et donc, je vous propose d'écouter un titre qui est interprété par le collectif Orifant, et c'est un titre qui date du XIIIe siècle et qui s'appelle « Glorieuse Vierge Marie ». Et puis, on se retrouve juste après pour en parler.
Glorieuse Vierge Marie,
Voilà, donc c'était Adam de la Halle, bah, pas lui qui interprétait, hein, c'était le groupe, le collectif Orifan, mais Adam de la Halle, donc un titre de Adam d'Arras, ou le, dit le bossu également, qui s'appelait Glorieuse Vierge Marie. On est toujours en compagnie donc de Jacques d'Arras et Jacques Bonafé pour parler de ce livre et du spectacle aussi qui aura lieu à l'hôtel de Guignes, du cloître à la place publique Les Poètes Médiévaux du Nord de la France, 12e et 13e siècle. Adam de la Halle, c'est quand même une figure emblématique qui figure dans le bouquin également.
Et c'est également un très grand compositeur de musique. Il a composé, par exemple, plus d'une centaine de rondos. Et on a eu la chance d'écouter l'autre jour à la Maison de la Poésie à Paris. Jacques était sur scène et moi aussi. Et il y avait un ensemble vocal. Et je leur avais demandé, écoutez, composez votre programme en me donnant le plus d'Adam de la Halle que vous pouvez. Et ils ont donné en particulier des petites pièces très courtes. Là, c'est une pièce assez longue. Et des pièces très courtes et polyphoniques, à trois voix, une voix d'homme et deux voix de femme. Ça dure 45 secondes, hein, et c'est absolument phénoménal. C'est fabuleux. Or, il y a très peu... Là, c'est bien que vous ayez dégoté, je veux dire, un disque comme ça, que vous ayez trouvé un disque. Mais en fait, il y a assez peu d'enregistrements d'Adam de la Halle.
Ouais, moi, tout je voudrais dire aussi, il faudrait qu'on entende un peu plus les rondos.
C'est ça.
Voilà.
Ça s'appelle les rondos.
Bah, moi, je trouve que... Arras, là, je vous interpelle. Je vous dis qu'avez-vous fait des rondos du bossu? J'aimerais bien les entendre sur les chaînes locales.
D'accord, très bien. Bon, on va y penser.
Hey, mais c'est des petites pièces merveilleuses, c'est vrai.
C'est extraordinaire. c'est vraiment le père, on dit c'est le père de la polyphonie. Hein. C'est celui qui d'une certaine façon, a inventé quasiment le chant à plusieurs voix et ensemble. Et c'est vers 1260-70 à peu près. Et c'est un aussi grand compositeur de musique qu'il est un grand compositeur de prose, de poésie et de théâtre.
Alors, question que je vous pose justement pour ce livre, comment on fait un travail de traduction? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut faire des recherches? Est-ce qu'il faut être spécialisé vraiment dans la langue ancienne? Est-ce que c'est sa propre interprétation qui vient ajouter une petite... luminosité alors, pour la clarté de la compréhension.
Alors, je réponds d'abord à la première question. Des recherches, oui, j'en ai fait des masses et des masses au cours des années et donc essentiellement à la Bibliothèque nationale, car tous ces textes-là ont été édités une fois, généralement une fois, et certains d'entre eux n'ont plus été édités depuis 1890, en quelque sorte, depuis la fin du 19e siècle. Donc, il faut aller les chercher. Et puis, il faut les comprendre. On est obligé de les traduire soi-même, pour les comprendre. Sauf si l'on est un médiéviste, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un expert en langue médiévale, mais je suis un poète. Et donc, quelqu'un qui a envie de faire passer dans la langue et le rythme, surtout le rythme d'aujourd'hui, ce qui était la langue, le rythme, et d'autres, d'une certaine façon, le corps. De ces gens du Moyen-Âge qui étaient extraordinairement vivants et qui avaient un sens du rythme invraisemblable. En particulier, ce vers très très court, je ne vais pas être trop technique, mais qu'on appelle l'octosyllabe, 8 syllabes, et qui va très vite. C'est un vers qui file à toute vitesse, pas un poil de graisse. Il faut courir, quoi. On a vraiment l'impression que c'est une course de vitesse. Et donc, c'est ce qu'ils m'ont en quelque sorte demandé. J'ai l'impression d'avoir été leur truchement, leur médiateur, ce qu'ils m'ont demandé de faire.
Celui qui ne sait l'art d'aimer, mais qui d'amour souffre la douleur, qu'il me lise donc, il apprendra comment on peut en avoir joie, comment on doit s'y comporter, comment on doit s'y maintenir, quelle sagesse il faut pour conquérir, quels arts, inventions, intensités, de même que nef par mer sont gouvernés par l'art du compas. Voilà, un de tatou katatam, C'est des vers courts, effectivement. Ce n'est pas l'alexandrin qui s'étend, qui a l'air d'étendre les bras, d'étendre sa déclamation. C'est clair, c'est court, ça a les pieds sur terre.
Absolument. Alors moi, j'aime bien ça. Et ça fait très longtemps que je travaille autour du 8, comme ça. Ça n'a pas été trop, trop difficile, car pour traduire, on traduit à l'oreille, quoi. Alors, d'une part, je suis resté le plus près possible du texte d'origine. Et généralement, les traductions qu'on fait de tout ça sont des traductions en prose. Ou bien on ne fait pas de traduction du tout, on balance le texte médiéval, on met des notes, petit 1, petit 2, petit 3, et il y a tellement de notes au bout d'un moment qu'on ne voit plus le texte, qu'on ne voit plus que les notes. Et alors je me suis dit, ben non, ça c'est pour les spécialistes, ça ne touche que simplement 15 personnes, 10 personnes en France, quoi. Et je voulais à tout prix qu'il y ait davantage de gens qui soient touchés, y compris les poètes français contemporains, qui ne sont pas davantage médiévistes que je le suis. Je pense que je le suis même peut-être un peu plus qu'eux. Et donc, je me suis appliqué à suivre le rythme, l'octosyllabe, j'adore, et à l'en faire un vers d'aujourd'hui, mais en respectant le rythme de l'époque et parfois des mots de l'époque.
Ah qui... oui. Voilà. Alors, mon petit grain de sel, c'est de dire qu'effectivement, reprenant le cours de ce que vous êtes en train de dire, il y a effectivement parfois une tentation un peu de complexifier dans la traduction, hein, pour montrer qu'on est grand spécialiste. Or, il faut rendre ça limpide. Le travail de la traduction, c'est de rendre ça limpide. Une des grandes qualités de Jacques Darras, c'est de pouvoir compter sur le rythme. Et effectivement, de parfois remplacer les mots trop difficiles ou les tournures anciennes qui font un peu médiéviste, comme ça, par une espèce de claire évidence, mais très rythmée. Il aime bien, je crois qu'il y a avant tout un devoir de délivrance, de transmettre tout ce que contiennent ces textes, et surtout la surprise formelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cessé à cette époque-là d'inventer des nouveaux trucs. Hein, ce n'est pas seulement un poème courtois qui se répète à l'infini, non, mais c'est plein de formes nouvelles à chaque fois.
Et alors, à l'époque, la poésie, elle est faite pour être dite à haute voix. Les gens la savent par cœur, et ils la disent à haute voix. Ils se la disent les uns aux autres. Et ils sont une société, une association, et ils veulent se surprendre les uns les autres. Il y a un peu de compétition. Toute proportion gardée, c'est un peu comme les slameurs aujourd'hui.
Exactement, hein, c'est ce que j'allais penser. Ouais.
Alors disons, carrément, c'est les slameurs du Moyen-Âge. Ou plus exactement, les slameurs contemporains, sans le savoir, ne font que répéter, reproduire ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge. Et il faut les imaginer dans les tavernes d'Arras. Les tavernes, à l'époque, la ville est en bois. Elle prend souvent feu, d'ailleurs. Elle sera construite en pierre à partir du XVIIe siècle. Ils sont dans les tavernes. La taverne, c'est le lieu du théâtre, c'est le lieu de la poésie, c'est là qu'ils se rencontrent. Ils boivent du vin, ils ne boivent pas de la bière, ils en boivent certainement, mais ils boivent du vin d'Auxerre. C'est du, je ne veux pas dire que c'est un mauvais Bourgogne, parce que
un Bourgogne, je me fâchais avec
les gens d'Auxerre. Non, c'est un Bourgogne de pas de première qualité, de premier rang en quelque sorte, mais alors ça coule à flot. Et donc, ils s'échangent, en quelque sorte. Le jeu, c'est de s'échanger des poèmes. Alors, à date fixe, date régulière, il y a des fêtes particulières. Et donc, en particulier du côté de la Pentecôte, et vers le mois de mai, 24-25 mai 1104, c'est là que se constitue, d'une certaine façon, la légende de la charité, c'est-à-dire l'association des ardents. Oui, parce que tout ça part d'une guérison miraculeuse.
Le mal des ardents, oui.
Le mal des ardents. Guérison miraculeuse par la Vierge, qui est invoquée, et qui apparaît à deux jongleurs, une nuit, deux jongleurs qui se détestent. Ils se détestent, on comprend, parce qu'il y en a un qui a tué le frère de l'autre. Et ces deux jongleurs voient l'apparition de la Vierge, qui leur dit « Rendez-vous à la cathédrale, et vous allez, la nuit du 24 au 25 mai, et il vous apparaîtra... » elle ne dit pas « je vous apparaîtrai », mais apparaîtra quelque chose, se produira quelque chose. Et elle descend de l'autel en tenant un cierge, et elle dit « avec ce cierge que vous allez diluer dans l'eau, vous allez guérir le mal des ardents ». À l'époque, les gens étaient complètement démunis. C'est ce qu'on appelle l'ergot du seigle ou l'ergot du blé. Et comme on arrivait en fin de provision au mois de mai, avril-mai, des stocks de l'hiver précédent, il y avait donc se développer cette fermentation du blé qui devait être sans doute dans les caves d'Arras, là, dans les caves autour de la place. Et donc, ça créait une maladie qui brûlait, qui donnait l'impression aux gens qu'il brûlait, littéralement. D'où le mal des ardents. Donc, c'est cette histoire-là qui prélude à la création de la charité Notre-Dame des Ardents, des jongleurs et des bourgeois. Il y a encore aujourd'hui, dans Arras, je ne le savais pas moi, une église Notre-Dame
exactement.
Des Ardents.
Exactement, ouais. Il nous reste deux petites minutes pour conclure cette émission. On peut peut-être parler un petit peu du spectacle. Comment ça se met en place qu'est-ce qu'on peut y voir sur scène?
Moi, j'ai tendance à répondre en disant que depuis un certain temps, il y a longtemps, j'emboîte le pas à Jacques d'Arras. C'est qu'on a commencé comme ça, en marchant ensemble sur des paroles. On était trop ouverts à notre façon, c'est-à-dire qu'on allait de lieu en lieu, d'Amiens à Douai, à Lens, et puis un peu partout en France, disant les textes de Jacques d'Arras. Je pense que notre souci ce soir, par exemple sur scène, ça ne va pas de ne pas rester dans le passé, mais d'être dans ce qu'on entend là tout de suite, dans l'action, c'est-à-dire représenter ces gens-là dans leur histoire, mais très, très, très vive, comme ça, très vivante, et aussi peut-être des liens avec des écritures d'aujourd'hui.
Mmh. Donc, vous allez démocratiser, désacraliser, populariser un peu ce langage et ces poèmes.
Ouais. Et aussi, il faut le dire ici, à Arras, dire notre admiration. C'est-à-dire, faut pas oublier le mot célébrer, sans flatterie excessive, c'est un trésor incroyable de cette ville, cette écriture-là.
Oui, réveiller, célébrer et réveiller. Essayer de réveiller ce qui est là. Pas sous la terre. Attendez, il y a la petite place du marché, la place du marché, la place des héros. C'est comme
c'est
ça.
La place des héros et la place de la vaquerie qui est juste derrière.
La place des héros, la place de l'hôtel de ville. Mm-hmm. Si vous marchez, que vous traversez la place quand il n'y a pas de voiture, vous avez inscrit par terre dans le pavé la figure géométrique de la Sainte Chandelle. Où l'on conservait cette chandelle qui était apparue aux jongleurs. Et au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, XIIIe siècle, ils ont construit une pyramide qui faisait 30 mètres de haut pour tenir ce... On a encore les dessins, 30 mètres de haut pour tenir ce reliquaire-là qui était là. Donc il y avait encore un souvenir qui a duré jusqu'en 1791. Ah, lors de la Révolution, là, ils ont rasé beaucoup de choses. Hein. Ils ont rasé, c'est les Arageois qui ont fait la Révolution, ils ont rasé la cathédrale, Notre-Dame dans la cité, on n'en voit plus rien aujourd'hui, là, sur la cité, là, l'autre partie d'Arras, et puis ils ont rasé la chandelle des Ardents, quoi. Et alors, il ne reste plus que des ombres, des souvenirs, et je vous dis, je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, ils ont mis la forme de l'emprise, en quelque
pas,
sorte.
Ne nous perdons pas, restons sur notre ouvert d'Arras.
Ah ben, mais Arras, c'est une
et
histoire.
Et brûlons la chandelle pour eux.
Parlez debout.
Oui. Oh, je vous en prie, parlez debout vous-même.
Moi, je parle debout. Et je me lève, du coup.
Jacques d'Arras, Jacques Bonafé, merci beaucoup d'être passé donc sur le studio de PFM pour parler un petit peu de ce spectacle et de ce livre du cloître à la place publique, Les poètes médiévaux du nord de la France, 12e, 13e siècle, poésie Gallimard pour les éditions. Et puis, je vous souhaite bon vent et puis bon vent pour aller jouer les trouvères ou les troubadours partout en France. Merci beaucoup.
Merci à vous.